Absolument, 10% du poids de corps sont représentés par les mitochondries et ça peut aller jusqu'à 15% pour le cerveau et 40% pour le myocarde. À partir du moment où vous accumulez plus de mitochondries abîmées, que vous n'êtes pas capable d'assurer la biogénèse et la mitophagie, votre parc mitochondrial va se détériorer et c'est là que vous allez commencer à avoir des symptômes. Vous avez une carence en sélénium, en zinc, et là, et que vous avez des symptômes de fatigue, etc., il est probable que vous avez un stress oxydant. Que le microbiote bactérien intestinal est en communication avec le parc mitochondrial et c'est probablement pour ça que ce microbiote est tellement important. Entretenir le parc mitochondrial de manière optimale, eh bien, il faut, par exemple, l'activité physique intermittente est un très bon moyen, le jeûne intermittent, la chaleur, le froid, etc.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode.
L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec notre vision. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang. Ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast. Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir professeur Castronovo. Comment ça va ?
Ça va bien. Quasi 1000%, mais pas tout à fait.
Ouais, c'est l'objectif, hein, de toute façon. Et on est accompagné aussi d'Alexandre aujourd'hui, ça va ?
Bien sûr, bonjour déjà, bonjour, merci d'être présent, hâte de parler justement de la mitochondrie.
Pardon ? Voilà, mitochondrie ?
Ouais.
Ok.
Ça va être hyper intéressant.
Ça vous intéresse, les mitochondries ? Cool.
Donc ouais. J'ai eu la chance de pouvoir suivre le DU MAPS, je te remercie Vincenzo, ça a bousculé ma pratique de me tourner vers la santé et d'accompagner les gens, et je pense que c'est vraiment dans le cadre de 1000%, tu vois, on parle de santé, de nutrition, de sport, et on veut amener de la connaissance, et ton
absolument.
DU était incroyable.
Et d'ailleurs, tu ne peux pas ne pas parler mitochondrie si tu parles de santé et de performance, évidemment. Alors, tu veux savoir quoi sur la mitochondrie ?
Je peux te lancer sur le fait que tu disais que la médecine mitochondriale, c'était la mère de toutes les médecines. Comment tu pourrais expliquer tout ça ?
C'est évident. En fait, cher ami, la vie est l'interaction de la matière et de l'énergie. Ok ? Quand tu parles d'interaction de matière et l'énergie, le maître qui fait cette interaction, c'est la bactérie ancestrale, il y a 1,6 milliard d'années, qui a pu apprivoiser l'oxygène, qui était une molécule toxique, je le rappelle au départ, parce qu'elle est électrophile, et que si elle capte un électron qui ne correspond pas à un niveau énergétique optimal, elle se transforme en une molécule extrêmement dangereuse, un radical libre. Okay ? Donc, cette bactérie a pu apprivoiser l'oxygène en tempérant ses velléités électroniques et en lui disant, écoute, moi, je vais pomper de l'énergie aux électrons à haute énergie et je te le donnerai quand il sera à bonne température pour toi, pour pouvoir être heureuse et atteindre le nirvana atomique que recherchent tous les atomes, c'est-à-dire avoir leur orbital électronique externe saturé. Et donc, cette bactérie a rapidement séduit les cellules eucaryotes naissantes qui étaient toujours sur un mode de glycolyse, c'est-à-dire deux molécules d'ATP par molécule de glucose oxydée en deux molécules de pyruvate qui souvent étaient fermentées en lactate ou en éthanol en fonction du type de cellule. Et donc, la bactérie qui avait inventé la respiration cellulaire, elle, était capable, à partir du pyruvate, de produire 18 molécules ATP, ce qui veut dire, deux molécules de pyruvate, 38 molécules ATP, et ça augmentait de manière remarquable. Et donc, elles ont été adoptées. Il y a eu un contrat endosymbiotique, c'est-à-dire que la cellule eucaryote naissante l'a endocytée par phagocytose, mais elle ne l'a pas digérée. Et donc, finalement, cet événement qui est très probablement ce qui s'est passé, même s'il n'y avait pas de caméra à l'époque, eh bien, tout nous indique que ça s'est passé comme ça, puisque la membrane externe de la mitochondrie a la même composition que la membrane cellulaire, c'est celle qui a permis de l'endocyter. La membrane interne a la même composition que la membrane des bactéries actuelles, donc elle est constitué de phospholipides, mais n'a pas de cholestérol. Et cette absence de cholestérol rend la fluidité moins optimale. C'est pour ça que les mitochondries vont, d'une part, accumuler beaucoup d'acides gras polyinsaturés oméga-3, comme tu sais, l'acide docosahexaénique qu'on trouve dans les poissons gras. Et d'autre part, elle va inventer un nouveau phospholipide qu'on appelle la cardiolipine, qui contribue également à cette fluidité. Ensuite, la bactérie qui va devenir la mitochondrie va venir avec son propre génome et sa propre indépendance relative. Ok, c'est-à-dire qu'elle a un ADN qui mesure environ 16 500 nucléotides, ce qui est ridicule par rapport aux 3 200 000 000 de nucléotides du génome nucléaire. Mais néanmoins, ces petits génomes vont avoir un impact majeur sur notre santé, sur notre longévité et nos performances.
Et ça reprend le pouvoir des membranes. Tu disais dans le début Maps que la cellule, la vie complexe due à la cellule avait le pouvoir de compartimenter la centrale nucléaire, la centrale énergétique.
Ah, évidemment. Donc les membranes jouent un rôle fondamental. Tu dois savoir que pour un organisme, si on prend toutes les membranes, c'est des milliers de mètres carrés de surface qu'on va couvrir de cette bicouche phospholipidique. Rien que les neurones, figure-toi. Rien que la membrane plasmique des neurones, sans considérer les membranes intracellulaires, tapisse une surface de 25 000 mètres carrés, c'est-à-dire trois terrains de foot qui sont tapissés par les membranes neuronales. Ben, ça dépend de qui t'extrait les neurones. Il y en a, ce sera peut-être des mini-foot, hein, évidemment.
J'ai vu en faisant les recherches, on parle de 10% du poids de corps. Est-ce que c'est réel?
Ah, absolument. 10% du poids de corps sont représentés par les mitochondries et ça peut aller jusqu'à 15% pour le cerveau et 40% pour le myocarde, mon ami.
Et j'ai vu 50 kilos d'ATP par jour aussi?
Absolument, 50 kilos d'ATP et 50 grammes par minute.
C'est incroyable. Et même un terme qui, on a beaucoup parlé du microbiote, et là on entend parler du mitobiote. Est-ce qu'il y a vraiment une synergie? On parle de la mitochondrie.
C'est-à-dire que le mitobiote, c'est un nom qui représente le parc mitochondrial. Et ce qu'on sait depuis peu, mais qu'on aurait pu deviner, c'est que le microbiote bactérien intestinal est en communication avec le parc mitochondrial. Et c'est probablement pour ça que ce microbiote est tellement important. Parce que dès que ce microbiote intestinal dysfonctionne, il y a une modification de toute série de métabolites qui va impacter directement le fonctionnement des mitochondries, et notamment celles qui fonctionnent le plus, celles qui ont une consommation d'oxygène, notamment les mitochondries cérébrales, puisque 20% de l'oxygène que tu respires est consommé par les mitochondries cérébrales.
Et inversement dans l'autre sens aussi? Est-ce que par exemple...
Les mitochondries affectent également le microbiote, évidemment, oui.
D'accord, ok.
Et la mitochondrie, son rôle principal, ton livre, c'est source d'énergie, de santé et de longévité.
Voilà, donc la mitochondrie, au départ, elle a été adoptée pour son capacité énergétique remarquable, où elle va donc permettre d'extraire beaucoup d'énergie chimique potentielle et la transformer en énergie, en la monnaie énergétique universelle que tous les organismes utilisent, c'est-à-dire l'ATP. Ok, 50 kilos d'ATP, Alexandre l'a rappelé. Et elle va également, au cours d'évolution, apprendre à brûler d'autres carburants, comme notamment les acides gras, comme les corps cétoniques, comme certaines protéines, mais après avoir été désaminées, évidemment. Et au fur et à mesure de l'évolution, en 1 600 000 000 d'années, il y a eu beaucoup, eh bien, la cellule eucaryote, contente du travail, a confié d'autres missions importantes à cette mitochondrie, mais en lui envoyant des protéines qu'elle a produites elle-même, donc il y a des gènes nucléaires. Car si nos mitochondries originales sont d'origine exclusivement maternelle, avec leurs 13 gènes qui codent pour les protéines des pièces importantes des complexes de la chaîne respiratoire, il y a eu des ajouts, des améliorations faites à partir du génome nucléaire. Il y a environ 500 protéines qui viennent du génome nucléaire, qui vont être produites dans le cytosol et qui ont un signal d'importation à la mitochondrie.
C'est pour ça qu'on entend souvent que le parc mitochondrial est principalement maternel, mais le père a aussi un impact sur les protéines qui collaborent.
Ah, évidemment, en tout cas, pour moitié. Donc, il y a des maladies mitochondriales qui peuvent être d'origine paternelle, mais pour autant qu'éventuellement le gène nucléaire de la mère était muté. Donc on a des maladies qui ne sont pas encore bien connues, mais où il y a des homozygosies récessives pour des protéines importantes. Et donc tout ça pour dire que au cours de l'évolution, de nouvelles missions ont été confiées à ces mitochondries. La première mission, c'est le contrôle du taux de calcium. Le taux de calcium joue un rôle important. Vous êtes kiné, vous savez que sans calcium, pas de contraction musculaire. Vous vous rappelez pourquoi?
Que
fait le calcium?
Je l'ai pas, je sais pas.
On n'avait pas.
Participe à la contraction, non? Participe à la contraction musculaire.
Oui, mais comment? Calcium va se fixer à la troponine qui va faire glisser la tropomyosine, libérer l'état de fixation de la l'actine pour la myosine. La myosine peut venir s'y accrocher en présence d'ATP. Il y aura le mouvement qui va faire la contraction. Okay, donc ce calcium est hyper important dans la signalisation cellulaire. Eh bien, la mitochondrie joue un rôle extrêmement important. Deuxième fonction, le contrôle de la mort cellulaire. La mitochondrie peut décider d'activer un programme d'autodestruction de la cellule qu'on appelle apoptose lorsqu'elle voit qu'il y a un danger, notamment qu'elle produit beaucoup de radicaux libres et ces radicaux libres pourraient atteindre le génome, créer des mutations et compromettre la survie de l'entièreté de la communauté cellulaire. Donc, il y a un esprit de sacrifice remarquable. Et enfin, dans certaines localisations, les mitochondries se sont vues à leur attribuer des fonctions spécifiques dans l'endroit où elles sont. Dans le foie, par exemple, elles vont participer à la détoxication de l'ammoniac avec le cycle de l'urée. Au niveau des glandes thyroïdiennes, les surrénales, les ovaires et la testostérone, elle va contribuer à la synthèse de ces hormones en oxydant cholestérol en prégninolone. Elle va également contribuer à la synthèse des radiateurs. Donc, elle va s'équiper, elle va se voir attribuer beaucoup de fonctions extrêmement importantes.
Moi, j'avais une question, juste me permet de rebondir. Vous avez parlé justement de la production de radicaux libres. On entend beaucoup de choses sur les radicaux libres qui seraient nocifs en excès. En même temps, certaines personnes disent que les antioxydants, c'est pas forcément bon. D'autres disent que c'est bon. Comment est-ce qu'on se place par rapport à ça et cette vision des radicaux libres qui pourrait être intéressant dans un certain cas?
Alexandre, tout est une question d'équilibre. Tout est une question d'équilibre et de justesse. En fait, rien que la vie est associée à la production de radicaux libres. Rien que le fait, parce que lors de son cheminement dans la chaîne de phosphorylation oxydative, il y a un petit pourcentage entre 1 et 5, voire 10% d'électrons qui tombent prématurément et qui seront captés par l'oxygène et se transformant en radical superoxyde. Ces radicaux superoxydes peuvent d'ailleurs, à quantité limitée, servir de moyens de communication. Ils donnent une information. Néanmoins, s'ils sont en excès et qu'ils ne sont pas transformés en oxygène et puis en eau, comme ils doivent être faits normalement, eh bien, ils peuvent se transformer en radicaux libres qui sont là agressifs, qui vont oxyder les molécules avoisinantes. Et donc, il y a nécessairement une production de radicaux libres qui est inhérente à la vie. Et évidemment, pour pouvoir gérer cette production constante de radicaux libres, la cellule et la mitochondrie s'est équipée de systèmes antioxydants, notamment la superoxydismutase, la glutathion peroxydase, et donc tout fonctionne bien. Quand tout est équilibré, tout fonctionne bien. Mais si vous avez un excès de production de radicaux libres, parce que la mitochondrie manque de nutriments, parce que la membrane à la mitochondrie est trop rigide, et si vous avez une déficience en antioxydants, parce que, par exemple, vous n'avez pas assez de coenzyme Q10 parce que vous prenez des statines, hein, eh bien, là, ce déséquilibre fait qu'il y aura un excès de radicaux libres qui vont venir s'attaquer aux molécules, oxyder, les modifier au niveau structurel, au niveau fonctionnel et au niveau antigénique. Et ça va créer ce qu'on appelle le stress oxydant, qui est l'événement biochimique majeur du vieillissement accéléré et donc qui est responsable de la plupart des maladies chroniques dégénératives.
On peut voir la mitochondrie comme une centrale nucléaire qui produit aussi des déchets. Et si on prend un peu de recul, entre le monde végétal qui produisait de l'oxygène et du glucose, la mitochondrie a pu produire de l'énergie sans venir métaboliser l'ensemble du glucose progressivement pour pas que ça soit délétère pour la cellule.
D'abord, les plantes ont des mitochondries également, bien sûr, parce qu'elles vont profiter de leur synthèse de glucose. Et ce sont des centrales productrices d'énergie, mais ces mitochondries aujourd'hui acquis un statut qui permet de dire que ce sont les CEO, les chief officer. Ce sont vraiment c'est le pool mitochondrial d'une cellule qui détermine la destinée de cette cellule et tout son fonctionnement. Et également, les mitochondries vont jouer un rôle important dans l'utilisation du génome. Elles jouent un rôle fondamental dans la régulation épigénétique, c'est-à-dire dans quels sont les gènes qui vont être transcrits, etc. Il y a une communication constante entre les mitochondries et le génome nucléaire, entre les mitochondries, le métagénome microbiotique. Donc, c'est un ensemble. Finalement, c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que, et on peut se demander pourquoi on n'y a pas vraiment prêté attention avant, mais à partir du moment où la vie, c'est l'interaction de la matière et l'énergie, c'est sûr que la mitochondrie est à l'origine. On peut considérer que les mitochondries sont les graines de la vie.
Et ces molécules de glucose qui sont très riches énergétiquement, la mitochondrie permet en fait d'enlever ces électrons, produire de l'énergie au fur et à mesure, alors que ça pourrait être des molécules qui soient délétères en fait.
C'est-à-dire que la mitochondrie va organiser la libération progressive de petites quantités gérables, manutentionnables, sans qu'elles soient tellement énergétiques que ça puisse éventuellement faire flamber la cellule. Et donc, en effet, le génie de la mitochondrie, c'est d'avoir pu, de manière progressive, extraire l'énergie pour arriver à un électron qui peut être accepté par l'oxygène.
Juste pour revenir sur le vieillissement, vous avez parlé de stress oxydatif. C'est quoi, du coup, votre conseil sur les antioxydants? Est-ce que ça dépend bien sûr de chacun, c'est particulier, mais quelles seraient justement vos recommandations en fonction du type de public?
Alors, déjà, il y a un déséquilibre entre production de radicaux libres et défense lorsqu'il y a un stress oxydant, c'est-à-dire accumulation de lésions oxydatives qu'on peut mesurer par des marqueurs. On peut mesurer indirectement le taux d'anticorps anti-APOB LDL oxydé. On peut mesurer le taux de 8-hydroxyguanosine qui est le reflet de l'oxydation de l'ADN et de sa réparation. On peut doser la malonaldéhyde qui est le reflet de l'oxydation des lipides. Et donc, à partir du moment où le patient a des signes de stress oxydant, il est évident que soit il a des mitochondries qui fonctionnent pas bien ou bien qu'il a éventuellement un apport d'antioxydants qui est insuffisant, ou les deux.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Et est-ce qu'au niveau des symptômes, il y en a qui pourraient être visibles pour les gens sans ces analyses-là un peu plus précises? Est-ce qu'il y a une fatigue qui s'installe? Il y a des choses. C'est un peu bateau peut-être de dire ça.
Oui, c'est un peu bateau de dire ça. En fait, si vous ne consommez pas 2/3 de fruits et légumes par jour avec du gras pour avoir l'absorption des caroténoïdes qui sont lipophiles, si vous avez une alimentation déséquilibrée, vous avez une carence en sélénium, en zinc, et là, et que vous avez des symptômes de fatigue, etc., il est probable que vous vous sentez plus vieux, que votre peau vieillit, il est probable que vous avez un stress oxydant.
Mais le déséquilibre, il peut se situer sur l'exposition trop importante sur un stress oxydatif. Il peut être aussi des défenses antioxydantes qui sont trop basses.
Voilà.
Ou un peu des deux.
Absolument. Oui, souvent c'est les deux. Souvent c'est les deux.
Donc on peut jouer nous aussi sur ces mitochondries ou pas?
Ah, vous pouvez jouer sur les mitochondries. L'idée c'est de, comme je l'ai dit, dans le contrat endosymbiotique, les mitochondries ont gardé un peu d'indépendance, mais sous surveillance de la cellule. Et l'idée, c'est que lorsqu'une mitochondrie commence à produire plus de déchets que d'ATP, elle est étiquetée et éliminée par un processus qu'on appelle la mitophagie. Et alors, elle va être remplacée par les mitochondries les plus performantes qui, elles, donc, vont maintenir un parc mitochondrial le plus fonctionnel possible. À partir du moment où vous accumulez plus de mitochondries abîmées, que vous n'êtes pas capable d'assurer la biogénèse et la mitophagie, votre parc mitochondrial va se détériorer et c'est là que vous allez commencer à avoir des symptômes. Donc comment pouvoir entretenir le parc mitochondrial de manière optimale? Eh bien, il faut d'abord créer un événement pour que les mitochondries les moins performantes soient visibles. Et donc, par exemple, l'activité physique intermittente est un très bon moyen, le jeûne intermittent, la chaleur, le froid, etc. Parce que là, toutes les mitochondries sont recrutées et celles qui sont les moins performantes vont montrer leur déficience et elles seront à ce moment-là étiquetées. Et d'autre part, par un système moléculaire connu qu'on appelle le couple Pink-Parkin, il va falloir stimuler la biogénèse, notamment avec des substances comme de la vitamine D, comme des oméga 3, comme éventuellement les œstrogènes pour les femmes, qui sont trophiques pour le parc mitochondrial.
Et est-ce que des efforts à basse intensité de cardio pourraient avoir un effet justement sur le développement du nombre de mitochondries ?
L'activité physique est fondamentale, évidemment. L'activité physique renouvelle votre parc mitochondrial de manière constante. Donc, ce qui est important, c'est que l'activité physique soit régulière et qu'il y ait des efforts intermittents. Parce que si vous avez un effort bas constant, il y aura que les jeunes mitochondries qui vont être recrutées. Alors que si, à un moment donné, vous trottinez, mais plus que vous sprintez, toutes les mitochondries doivent se mettre en route, et les plus performantes seront performantes, mais celles qui l'étaient moins, qui faisaient moins, vont devoir se mettre au boulot et montrer qu'elles sont déficientes et donc elles seront éliminées plus tard.
Donc le développement mitochondrial et la qualité des mitochondries dépend avant tout de l'activité physique alors ?
Absolument, absolument. Mais également, mais pas que, également d'un apport en micronutriments nécessaire, parce que la mitochondrie, elle est 100% dépendante de ce que la cellule va lui donner, donc de ce que le patient va lui donner.
Quels sont les micronutriments qui sont, pour vous, sont essentiels pour
Alors, les micronutriments qui sont essentiels, évidemment, ce sont tous les antioxydants, la vitamine E, tocophérotocotriénol, qui protège les phospholipides. Il y a également le coenzyme Q10 qu'on peut produire nous-mêmes. Il y a le sélénium, cofacteur de glutathion peroxydase. Il y a le fer, on n'y pense pas assez, mais le fer en carence est prooxydant, en excès est prooxydant puisqu'il alimente la réaction de Fenton. Et également, il y a le zinc, le cuivre, le magnésium fondamental, évidemment la carnitine qui est un acide aminé conditionnellement essentiel qu'il faut apporter via l'alimentation. Il y a la vitamine A, la vitamine D, enfin voilà, tous ces nutriments.
Tous ces micronutriments sur les bilans, pour vous permettent de savoir la santé mitochondriale en plus des...
Non, ce bilan permet de savoir est-ce que j'apporte suffisamment des nutriments indispensables à la mitochondrie pour qu'elle fonctionne correctement. Alors donc, encore faut-il que tous ces nutriments arrivent à destination correctement. Et par exemple, la vitamine D ne fonctionne qu'avec la vitamine A. Donc vous avez toute une série de conditions, c'est pas aussi simple que ça.
Comment vous arrivez à connaître la santé du parc mitochondrial de la personne ?
Donc en général, donc je fais un bilan que je présenterai d'ailleurs. J'ai créé un bilan qu'on appelle le bilan d'application préventive mitochondrie. On va évaluer tous les statuts en acide gras. Et donc on sait que s'il n'y a pas assez d'oméga 3, la mitochondrie ne sera pas bien. S'il y a trop de graisse saturée, trop de graisse trans, ça ne sera pas bien. On va évaluer les statuts en fer, le taux de cuivre, zinc, sélénium, on va évaluer la vitamine E, la vitamine A, la vitamine D, et donc avec ça, on peut savoir est-ce que les mitochondries... Et on va confronter, bien sûr, on va également voir s'il n'y a pas un stress oxydant, on va doser la prégnénolone qui mesure la santé des mitochondries des glandes stéroïdiennes, et puis on va confronter ces résultats avec la clinique, bien sûr, et on va pouvoir alors conseiller ou pas.
Et si on parle de clinique, quels sont les symptômes pour vous clés de quelqu'un qui a des mitochondries dysfonctionnelles? La fatigue?
La fatigue est le premier symptôme, évidemment. Pas d'énergie, fatigue. Quand vous êtes fatigué, c'est vos mitochondries qui vous disent qu'elles ne sont pas en forme pour produire la quantité d'ATP nécessaire. La fatigue qui n'est pas récupérée par le sommeil, par le repos. Okay. Le fait également de ne pas d'avoir des malaises, notamment lorsque on va avoir un gros repas, parce que le fait de ne pas supporter certaines molécules qu'on a détoxifiées, donc tous les organes, le brouillard dans la tête, l'état dépressif, il y a énormément de données maintenant aujourd'hui qui montrent que la dépression est un problème mitochondrial, comme d'ailleurs les fonctions cognitives, enfin voilà, tout. Quand je dis que la mère de toutes les médecines est la médecine mitochondriale, on peut poser tous les problème, et si on fait le cheminement biologique, physiopathologique, on arrivera aux mitochondries.
Sur vos conseils, j'ai fait mon DU sur l'hyperinsulinisme et les mécanismes du vieillissement. Et tous les mécanismes de vieillissement, on est à l'hypersanté, on parle de longévité, tous les mécanismes de vieillissement nous ramènent à la mitochondrie.
Évidemment, puisque lorsque la mitochondrie ne fonctionne pas bien, on va avoir nécessairement un hyperinsulinisme. Cet hyperinsulinisme va créer une inflammation de bas grade qui elle-même va aggraver l'hyperinsulinisme. L'inflammation de bas grade va consommer les antioxydants, va faire que les mitochondries fonctionnent moins bien, elles vont produire plus de radicaux libres, elles vont encore moins, et vous avez un cercle vicieux. Oui.
On a parlé justement de comment développer ces mitochondries, mais il y a aussi les toxiques qui sont quand même, on a parlé des statines. Donc, est-ce qu'on pourrait les évoquer avec les traitements médicamenteux aussi?
Absolument, les mitochondries. Par exemple, l'acétaminophène est un poison du deuxième moulin, citochrome C, vous voyez, hein. Donc, voilà. Donc, quand vous prenez trop d'acétaminophène, vous perturbez. Mais également, on considère que la mitochondrie est un biosenseur des agressions toxiques environnementales qui viennent par l'air, par l'eau, par la nourriture. Elle est sensible aux pesticides. Le glyphosate, par exemple, il est mitochondrial toxique. Les médicaments, les statines en inhibant la synthèse de coenzyme Q10 sont des poisons mitochondriaux, évidemment.
Toutes les toxines ciblent la mitochondrie.
La plupart des toutes, non, tout n'existe jamais en biologie, mais la majorité des toxines ciblent la mitochondrie et les métaux lourds également vont cibler les mitochondries. Et donc, je vous laisse, Vincent, expliquer pourquoi, puisque vous me dites fièrement que vous avez réussi le MAPS.
Eh ben oui, je suis très très content parce que ça a bossé dur.
Et donc, pourquoi est-ce que les métaux lourds sont...
Ça vient en interaction dans les moulins à protons sur la chaîne de respiration.
En faisant quoi?
Ça vient prendre la place du fer,
très
du
bien,
cuivre.
Bravo. Hein. Donc en fait, les métaux lourds vont se substituer au fer des deux premiers moulins, au cuivre du deuxième moulin, au sélénium, la glutathion peroxydale, qui ne feront plus leur travail. Et dès lors, on a ce résultat qui est aggravé.
On avait fait justement un podcast avec le docteur Delorgeril qui parlait des statines. Donc, pour les gens qui justement prennent ces traitements-là, qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller d'aller peut-être prendre la Q10?
De les jeter à la poubelle.
Ouais. Mais ça ok, ça c'est quand même ce qui est ressorti du podcast. Après, nous, on n'est pas cardiologue, donc on se place pas par rapport à ça.
Donc, les statines sont des poisons mitochondriaux, que monsieur Delorgeril ne contredira pas, n'ont montré aucune efficacité dans la prévention primaire des maladies cardiovasculaires. En fait, aujourd'hui, on sait que l'athérosclérose est une maladie auto-immune due à la production d'anticorps, non seulement contre les anticorps, contre les ApoB oxydés, mais également glyqués. Il y a le stress carbonique, donc l'agglication de ces protéines va jouer un rôle important. Et d'autre part, il y a également le fait que c'est une maladie inflammatoire. Okay, que donc ce n'est pas le cholestérol, il faut oublier, on a tellement parlé mal du cholestérol qu'il apparaît comme un serial killer. En fait, le serial killer, c'est l'hyperinsulinisme. Hein? Et quand on parle d'hyperinsulinisme, eh bien, on parle de déficit mitochondrial. Donc finalement, les maladies cardiovasculaires sont intimement liées à une faible performance du parc mitochondrial.
Et la statine va venir jouer sur la voie du mévalonate qui va perturber la synthèse de coenzyme Q10 qui est essentielle dans le transport de la chaîne d'électrons.
La voie du mévalonate, c'est une voie majeure qui a plusieurs sous-voies. Il y a le cholestérol, il y a le coenzyme Q10, il y a les commandes prényl-isoprényl, il y a également les anneaux porphyriques et voilà. Et donc tout ça va être perturbé. Et il y a aujourd'hui de nombreuses publications qui montrent que les statines créent le diabète de type 2, résistance à l'insuline. On sait que un des premiers pourvoyeurs de maladies cardiovasculaires accidents, c'est le diabète de type 2. Donc voilà, c'est QED. Donc comment remplacer? Ben, en optimisant le terrain. Et on sait aujourd'hui que l'inflammation est la cause première des maladies cardiovasculaires. L'absence de coenzyme Q10 crée l'inflammation. Et d'autre part, on sait aujourd'hui que la plupart des maladies cardiovasculaires sont associées à des problèmes intestinaux. Il y en a même qui ont été écrits que les maladies cardiovasculaires étaient un dommage collatéral de l'inflammation de l'intestin.
Ok.
Et est-ce que vous pouvez faire un petit focus sur l'hyperinsulinisme et la mitochondrie? Vous savez, si les mitochondries sont, disons, dysfonctionnelles, on va déclencher une résistance à l'insuline, et l'inverse est vrai aussi.
C'est l'inverse, c'est vrai, c'est-à-dire?
L'inflammation de l'hyperinsulinisme peut venir perturber le
fonctionnement. Ah oui, donc en fait, mais ça tu le sais, toi. Hein.
Oui, mais je vous le fais dire.
Donc, la mitochondrie, son carburant, c'est pas le glucose, c'est le pyruvate. Le pyruvate naît de l'oxydation du glucose en pyruvate, par la glycolyse, 11 étapes enzymatiques. À un moment donné, si la mitochondrie n'est pas fonctionnelle et ne sait plus recevoir le pyruvate parce que elle est en problème, la glycolyse se ralentit, le taux de glucose dans le cytosol va augmenter, et ce qui fait rentrer le glucose après avoir mangé dans la cellule, c'est un gradient de concentration. C'est parce qu'il y a plus de glucose dehors que dedans qui va rentrer à travers des transporteurs qu'on appelle les GLUT4 qui sont insulinodépendants. Et donc, à partir du moment où la mitochondrie ne fonctionne pas bien, vous allez avoir la glycémie qui ne va pas diminuer puisque le glucose ne rentre pas. Et les cellules du pancréas, voyant que malgré l'envoi d'insuline, la glycémie ne tombe pas, elle va en envoyer plus, elle va crier plus fort, les cellules bêta-hydroxyglycérine. Et à ce moment-là, on aura trop d'insuline et la voie de l'insuline va être hyperstimulée. Et comme elle est connexe à la voie de l'inflammation, la voie des cytokines et des récepteurs TOL, il va y avoir un débordement de la voie insulinique sur l'inflammation qui va en fait créer un état inflammatoire qui lui-même, à son tour, va bloquer la réponse à l'insuline parce que quand on a trop d'inflammation, IKK, qui est une kinase de la voie de transmission de l'information inflammation, va aller phosphoryler, mais au mauvais endroit, un élément de transmission de l'insuline qui va le bloquer. Donc voilà, c'est ça que monsieur...
Et on a hâte de lire le livre, hein, parce qu'il y a un livre qui sort prochainement, justement, sur la mitochondrie, donc hâte de lire tout ça.
Ben, absolument, donc ce livre que j'ai écrit... l'an passé va être édité par les éditions Très Daniel et il sera publié, il est déjà en pré-vente à la FNAC sur Amazon et il sera publié au mois de mai et il y aura une séance de dédicace au Pont du Gard, au Potentiel Humain qui en collaboration avec Karine Sioud, nous avons organisé un congrès autour de la mitochondrie où il y aura Monsieur Curtet, il y aura Monsieur Vélo qui vont parler et bien d'autres intervenants intéressants et ce sera autour
et sera... 1000% sera présent aussi au Potentiel Humain.
Magnifique.
On a vraiment beaucoup de chance d'être là.
J'avais juste une question, excuse-moi Vincent.
Vas-y.
J'aurais aimé, c'est que bon là on parle de certains cas particuliers spécifiques, mais pour les gens qui sont en plutôt bonne santé, ouais bien sûr, qui sont en bonne santé, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller justement aux gens qui veulent juste optimiser leur mitochondrie, donc on a vu l'activité physique, mais est-ce que par exemple la Q10, il y a des risques à en prendre ou...
Il n'y a pas de risque à en prendre, mais l'excès nutrient tout, donc il faut toujours, l'idée c'est d'être juste. Donc si vous voulez prendre des... Alors si vous avez une alimentation saine, vous ne prenez pas de médicaments, vous n'avez pas besoin, vous en produisez suffisamment. Donc les recommandations, c'est d'avoir une activité physique régulière, okay, de manger 2/3 fruits et légumes bio et un tiers produit d'origine animale, de bien dormir et de gérer son stress du mieux qu'on peut.
Voilà. Et ça, c'est à 1000%, ça, Vincenzo. Hein. Tu sais, on entend beaucoup parler de la flexibilité métabolique due à les mitochondries qui nous donnerait une qualité mitochondriale. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit focus sur la flexibilité?
La flexibilité métabolique.
Oui, entre, tu sais, utiliser les substrats glucidiques ou lipidiques, la mitochondrie qui peut passer d'un substrat à l'autre.
Ben, il y a une flexibilité métabolique, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas assez de glucose, elle est capable d'enclencher la consommation d'acides gras via la L-carnitine. Et éventuellement, s'il n'y a vraiment plus de glucose pour le cerveau, le foie va faire des corps cétoniques pour justement, et le régime cétogène qui a montré une certaine efficacité dans certaines conditions pathologiques, mais qui doit toujours se faire avec des mitochondries optimales. Et d'ailleurs, pour terminer, je veux dire que il faut pas se lancer dans la médecine mitochondriale comme ça. Il y a une formation, on ne peut agir que sur ce qu'on connaît et comprend. Et c'est pour ça que, avec Karine Sioud, nous avons créé la première plateforme de formation en médecine mitochondriale. Et j'imagine que vous mettrez
le lien en description. Voilà. Vincenzo, une dernière question. Comment, tu sais, on essaie de conceptualiser le corps humain, la complexité du vivant. Comment toi, tu vois l'avenir de la mitochondrie et même plus loin que la mitochondrie?
L'avenir de la mitochondrie, c'est pour ce que j'ai dit, pour moi, ça va devenir la cible de la prise en charge pour la santé du siècle qui vient, et ça le restera parce que sans mitochondrie, la vie ne peut pas exister comme on la connaît. Donc, je pense que de plus en plus, on va se soucier des mitochondries de nos patients en prévention et en thérapie.
Ben écoute, merci Vincenzo, c'était un régal, c'était à 1000%, et on te remercie d'être venu.
Avec plaisir.
Merci.